Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM. On se retrouve comme chaque mercredi pour l'émission Campus Lille Info, magazine consacré à l'Université de Lille. On va parler aujourd'hui recherche et on va se projeter dans l'avenir des véhicules. Comment devraient être conçus les véhicules de demain? Comment ils vont peut-être être réalisés pour régler un certain nombre de problèmes. On parle beaucoup d'écologie en ce moment, on parle d'environnement, de gros problèmes d'environnement. Est-ce que les véhicules de demain pourront régler en grande partie les problèmes d'aujourd'hui? Voilà, c'est la question qu'on va poser aujourd'hui au professeur Alain Bouxquerolles, qui est donc professeur au laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance. Bonjour monsieur Bouxquerolles.
Bonjour.
Alors, Panda, je peux dire le nom en anglais, mais je vais avoir l'air un peu ridicule. Power Advanced and Level Digital Architecture for Models of Electrified Vehicle and Component. Voilà.
Voilà, boum. L'important, c'était de trouver un acronyme accrocheur pour ce projet. Bon, la signification est peut-être un peu plus confuse. C'est un projet européen, financé par la Commission européenne, qui vise à rassembler des compétences d'industriels, d'universités, pour faciliter le développement de véhicules électriques. Donc, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. La question que vous posiez en début de cette émission, c'est est-ce que la mobilité doit changer ou pas, globalement. Donc, il y a différentes études internationales qui ont montré que pour rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, la mobilité est un point très important et on doit réduire la mobilité des émissions polluantes des véhicules. Et pour rester dans cette limite, on doit passer de 1 million de véhicules électriques aujourd'hui dans le monde à 100 millions. Donc on doit multiplier par 100 le nombre de véhicules électriques en 15 ans seulement. Donc comment faire pour arriver à faire ce défi ? Les industriels sont-ils capables de le faire? Et les potentiels utilisateurs ont-ils envie de le faire? Ont-ils envie d'acheter ces véhicules? Si oui, comment on peut arriver à réussir ce pari? Donc la Commission européenne finance un certain nombre de projets pour essayer de développer plus vite ces véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul million de véhicules électriques dans le monde, ce qui n'est pas énorme, c'est à peu près 0,1% du nombre total de véhicules. Donc l'objectif, c'est d'aller vers 10%. Alors, pourquoi? Parce que le véhicule électrique a une autonomie limitée. Donc on fait moins de kilomètres, à peu près 5 à 10 fois moins qu'un véhicule classique. Le temps de charge est très important. Donc au lieu de mettre 5 minutes pour charger un carburant son véhicule, on met plusieurs heures, voire une dizaine d'heures. Le coût est assez important, donc changer un véhicule pour un véhicule qui va coûter plus cher, c'est pas facile. Et puis, bon, il faut prendre en compte la production de batteries, qui est un élément sensible. Donc il est clair que pour le moment, c'est difficile pour les usagers de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Donc il faut développer de nouveaux concepts, qui répondent mieux aux besoins, qui répondent mieux aux usagers. Et il faut le faire très vite. Donc c'est l'objectif de Panda, de proposer des outils pour développer beaucoup plus vite, dans les 15 années où on doit faire ce défi, les véhicules électriques du futur. Bon, on peut se poser la question, parce qu'on entend souvent des débats assez contradictoires sur le fait que est-ce que le véhicule électrique répond bien à la question ? Donc là aussi, il faut regarder de manière un peu objective en dehors de la France, où il y a beaucoup de constructeurs de véhicules thermiques, les analyses de différentes agences gouvernementales qui montrent que un véhicule électrique va effectivement bien réduire toute la pollution en prenant compte ce qu'on appelle le cycle de vie, l'analyse du cycle de vie. Donc il faut faire les choses de manière globale et rigoureuse. Donc l'analyse de cycle de vie va prendre en compte l'énergie et la pollution de construction du véhicule. donc une batterie, il faut certaine énergie pour la construire, et il y a de la pollution qui est induite, va prendre en compte l'énergie et la pollution pendant l'usage du véhicule, quand on conduit un véhicule, on pollue, et va prendre en compte l'énergie de fin de vie, avec ou sans recyclage du véhicule. Donc quand on fait toutes ces analyses, qui sont assez complexes et assez longues, c'est pour ça qu'il y a des grosses agences qui font ce travail-là, on montre que le véhicule électrique pollue moins que le véhicule thermique, même si on entend des choses assez contradictoires pour le moment. Donc sur les études sérieuses, c'est clair. On ne peut pas se dire non, parce que la batterie pollue un peu plus, etc. Quand on prend tout ensemble, c'est clair que il y a des études de l'Agence environnementale européenne qui montrent que même en Pologne, où on produit l'électricité à 80% avec du charbon, c'est plus intéressant. Donc ça dépend de tout un tas de facteurs, mais globalement, on ne peut pas laisser dire un certain nombre de choses comme ça. Donc le véhicule électrique va être incontournable, qu'on le veuille ou non. La question, c'est est-ce qu'en Europe, notre industrie automobile en Europe est très forte pour le moment, on va continuer à avoir des emplois sur ce secteur-là, parce que dans d'autres pays, en particulier la Chine, c'est en très forte croissance.
Alors justement, le mot « panda » en Chine, ça a du sens. Alors, est-ce que vous attaquez frontalement aux intérêts chinois ?
Oui et non, je pense que la réflexion de la pollution, du réchauffement climatique, il est global, c'est-à-dire que il faut que tout le monde travaille dessus, et tout le monde propose des véhicules électriques, et tout le monde achète aussi des véhicules électriques. Oui, dans le fait où l'industrie européenne ne peut pas être absente de ce défi, absente à court terme, mais si on est absent à court terme, on sera aussi absent à long terme, parce qu'un véhicule, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc l'Union européenne finance des projets aussi pour la compétitivité de l'industrie européenne, en particulier automobile. Donc l'objectif n'est pas forcément de concurrencer d'autres pays qui se lancent beaucoup dans l'aventure, on va dire, mais aussi d'être présent sur cette aventure.
Alors, on a parlé de réchauffement climatique et de l'urgence, donc, à tenter de juguler un petit peu cette augmentation attendue. On n'a pas encore parlé beaucoup de pollution. Est-ce que les endroits du monde, les régions du monde les plus polluées sont les plus intéressées par le fait de trouver des solutions électriques à des véhicules polluants ?
Et il est clair que si on prend le cas de la Chine, où, qui est un des pays les plus pollués, où il y a beaucoup de villes très très polluées avec des alertes très importantes, on voit un développement très fort de ces technologies. Donc la Chine, à l'heure actuelle, c'est plus de la moitié des véhicules électriques vendus dans le monde. Donc un pays qui était assez en retard sur la mobilité automobile, on va dire, est devenu le pays en avance sur cette mobilité automobile électrique. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait des pics de pollution très très importants dans ce pays-là, a fait qu'il y a des décisions politiques qui ont été très importantes pour soutenir ce développement. Alors, c'est un peu paradoxal au sens où la production d'électricité en Chine, c'est globalement 80% de charbon, 20% d'énergie renouvelable, globalement. Alors, ça varie, c'est en train de changer, mais on pourrait se dire qu'on produit de l'électricité avec du charbon, donc ça pollue. Et le véhicule électrique n'est pas si intéressant que ça. Mais globalement, quand on fait l'analyse de cycle de vie global, c'est quand même plus intéressant en termes de pollution globale. Alors après, l'autre point très important, c'est que la pollution locale dans les villes, évidemment, avec un véhicule électrique, il n'y a pas de pollution locale. Donc si on remplace progressivement dans une ville les véhicules thermiques par des véhicules électriques, la qualité de l'air va s'en retrouver améliorer, et donc les problèmes de maladies respiratoires, etc., qui se développent de manière très importante, vont aussi être impactés.
C'est vrai que la Chine est en train de fermer pas mal de mines, hein, qui avaient été énormes à un moment donné, surtout les petites mines privées où il y avait plein d'accidents, qui n'avaient pas beaucoup de contrôle. C'est en train de diminuer au profit justement des énergies nouvelles. On pourrait parler aussi du solaire, etc. Donc voilà, on est en plein chantier en Chine. En France, on a l'impression que c'est difficile d'imposer quoi que ce soit d'ailleurs, mais notamment, je veux dire, une ligne directrice et d'imposer notamment aux industriels qui, eux, ont des contraintes, des impératifs économiques. Je dis pas qu'en Chine, il y en a pas, mais en Chine, ils obéissent en gros. S'ils veulent des prêts, il faut qu'ils passent par les décisions politiques. Donc, il y a un réel poids, on va dire, du gouvernement sur les décisions et l'application des consignes quant à mettre en place des chantiers, et notamment les chantiers de recherche. Il n'y a pas de recherche en Chine possible si ça rentre pas dans la politique générale. Est-ce qu'en France, on sent, dans la recherche tout au moins, puisque vous êtes chercheur, un réel investissement pour trouver des solutions à court et à long terme?
Il est clair que là, on rentre dans une phase qui est aussi plus court terme dans la recherche, avec tout un tas de réformes qui se sont passées et qui sont en cours. Et on se rapproche un peu trop, à mon avis, du fonctionnement des industries, c'est-à-dire fonctionner à court terme. On aimerait avoir beaucoup plus de grands programmes à échelle plus longue pour pouvoir réfléchir et prendre le temps et influer notamment sur tous les développements. Donc il y a quand même des programmes. Là, dans l'Union européenne, il y a le programme H2020, Horizon 2020, avec une partie qui s'appelle Green Vehicle Initiative, qui est un partenariat public-privé, où on a un certain nombre de réflexions et de grands programmes qui sont financés pour développer des produits, en particulier des véhicules à faible impact environnemental, véhicules électriques en particulier, tout en permettant d'avoir une haute technologie et garder des emplois en Europe. Parce qu'il est clair que on a beaucoup d'emplois qui sont reliés à la mobilité et aux véhicules. On a une expertise assez forte en Europe avec des grands constructeurs automobiles. Donc il faut aussi à la fois avoir le développement économique et le développement environnemental nécessaire pour ce défi. Donc il faut arriver à combiner tout ça, et ces grands programmes européens visent aussi à faire ça.
Non, on se souvient de l'aventure du diesel, hein, c'est pas terminé d'ailleurs, avec des choix stratégiques dont on peut considérer maintenant qu'ils n'étaient pas les meilleurs. Et il y a toute cette inertie aussi due au parc existant, et voilà. Et puis tout entre deux, tout ce qui a permis aussi des progrès en termes de diesel pour augmenter les performances des véhicules. Et là, les entreprises automobiles ont quand même bien travaillé sur les performances. On arrive à avoir des véhicules qui roulent aussi vite que des véhicules essence, etc. Donc, il y a eu ce pari du diesel, et aussi ce précaré, peut-être, d'une certaine manière, de la France, en disant on aura ça, c'est pour nous, on va vendre ça pour éviter beaucoup de concurrence. Et donc, on était sur ce parc qui est encore important. Comment on peut apporter à ce parc important une réponse technologique de masse, puisque là, il faudrait, comme vous le disiez, hein, passer de 1 à 100 en termes de production. Ça paraît assez incroyable, je veux dire, ça paraît difficile à réaliser. Donc ce serait vraiment une réponse de masse. Donc à la fois, en termes d'attractivité, il faut trouver comment sensibiliser les personnes et comment leur donner les moyens. Je veux dire, si on me donne une voiture électrique, là tout de suite, peut-être que je vais la prendre à la place de ma vieille voiture pourrie, sachant qu'il faudra quand même que je l'alimente en énergie, pas trop loin de chez moi, que je puisse rouler assez pratiquement avec, si je veux faire 200 km. Il y a tout ça. Peut-être en termes de progrès, il y a des choses qui vont évoluer, hein, sur peut-être l'autonomie, peut-être le temps de recharge, les capacités des batteries, enfin, etc. Mais en 10 ans, ça paraît court.
Oui, c'est vrai que c'est un vrai défi. Alors après, il est clair que le renouvellement du parc, je pense qu'un véhicule, c'est une dizaine d'années de vie. Donc il y a un renouvellement qui va se faire. Il faut arriver à trouver le bon rythme pour pouvoir le faire. Après, le véhicule électrique, au sens large du terme, c'est peut-être pas forcément que le véhicule électrique. On inclut aussi le véhicule hybride, où il y a un moteur thermique et une batterie qui vont se combiner pour avoir de meilleures performances en polluant un peu, mais beaucoup moins. Donc ça, tous les constructeurs automobiles sont en train de le faire et presque toutes les productions futures de Peugeot vont être hybrides, très faible taux, mais ça va quand même réduire. Donc les industriels sont quand même en train de faire ce changement. Mais il faudra aussi avoir une nouvelle vision de la mobilité. Alors je vais prendre un exemple simple de BMW qui développe la i3. C'est un véhicule électrique et en Allemagne, ils vendent leur véhicule électrique avec aussi de manière gratuite la possibilité d'avoir 30 jours de prêt de véhicule thermique. Donc ça c'est un changement de philosophie, c'est-à-dire qu'on va se dire je vais acheter mon véhicule électrique qui a une faible autonomie. Mais quand j'aurai besoin de plus, j'ai à ma disposition un véhicule thermique qui pourra le faire. Donc il faudra travailler sur les objets techniques, mais il faudra aussi travailler sur la perception, etc., pour pouvoir arriver à mixer tout ça. Il faudra aussi travailler sur l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on peut se dire je vais aller à quatre cantons pour prendre le métro tous les matins un véhicule électrique, avec peut-être des bornes de recharge qui seraient mises à disposition par Transpol pour pouvoir recharger gratuitement ou pas avec son abonnement son véhicule électrique et finir mon trajet en métro. Donc il y a tout un tas de réflexions qui se font qui fait que la transition elle peut s'opérer par petits pas mais de manière beaucoup plus globale que raisonner uniquement sur son propre véhicule. Après, le parc actuel, c'est vrai, une véritable question. Il y a des travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire comment changer un véhicule thermique en véhicule hybride en rajoutant une petite batterie, un petit moteur électrique pour commencer à réduire la pollution. Donc il y a beaucoup de start-up aux États-Unis qui travaillent sur ça, par exemple. Donc est-ce qu'en Europe, il y a un intérêt ou pas? Est-ce qu'on peut le faire? Mais c'est la vision ne pourra être que globale avec plusieurs solutions qui devront fonctionner ensemble. Bon, on pense personnellement dans les groupes de travaux qui travaillent sur ça qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées possibles qui ne seront pas que techniques, ça c'est clair.
Est-ce qu'au niveau mondial, on a parlé de l'Europe, hein, puisque vous avez un programme européen, mais est-ce qu'au niveau mondial, il y a une concertation qui existe? Est-ce qu'on échange entre l'Europe et d'autres continents sur ces problématiques-là pour avoir un plan cohérent d'ensemble? Est-ce que les intérêts sont communs ou est-ce qu'il y a des divergences évidentes de prise, on va dire, de pouvoir économique de pays par d'autres qui veulent garder leur avantage?
C'est clair qu'on est dans un environnement très concurrentiel, très libéral. Le virage politique de l'Amérique aujourd'hui fait que la concertation avec les États-Unis est beaucoup plus difficile. Bon, cependant, il y a quand même une volonté de travail commun. Alors, si je prends le projet Panda, pour prendre un exemple concret, donc on va travailler entre partenaires européens, on est 11 partenaires. Mais on a un comité de conseil qui est composé d'une personnalité d'Amérique du Nord qui est très connue et qui travaille dans le domaine, d'une personnalité de Hong Kong qui est très connue et qui travaille dans le domaine, et d'une personnalité européenne pour justement, d'une part, avoir un retour sur ce qui se passe et comment ça se passe, en particulier en Amérique du Nord et en Asie, et d'autre part, pour montrer aussi qu'on fait. Donc il y a une volonté dans ces projets-là, et je pense qu'aux États-Unis il y a aussi la réciproque, d'avoir des ouvertures ou des passerelles. Et il y a des futurs programmes combinés Europe-Amérique du Nord-Asie qui vont proposer des financements conjoints pour coupler de tels projets. Donc c'est pas monnaie courante, mais ça existe. Et je pense que tout le monde est conscient que la solution ne peut pas être que locale.
quand il y a des rencontres autour du climat, hein, comme c'était le cas il n'y a pas très longtemps, est-ce que vos laboratoires sont invités en tant qu'experts à présenter une partie des problèmes ou est-ce que ça reste très politique ?
Je pense que ça reste très politique, peut-être trop politique. Là, il faut aussi qu'on apprenne, nous, à peut-être élever un peu plus la voix et être un peu plus présent sur le terrain. C'est vrai que faire de la recherche, c'est pas faire de la communication.
Quoi qu'ici, vous pouvez.
Oui, mais bon, c'est vrai que je me sens pas si à l'aise que ça devant le micro, on va dire. Mais et c'est vrai que aussi notre position de chercheur, c'est être aussi indépendant d'un certain nombre de critères, de pression industrielle, etc. Être un peu en recul par rapport à un certain nombre de choses, prendre le temps de réfléchir pour poser un argument. Et être dans des institutions comme ça, c'est un peu le contraire, c'est prendre des positions. Donc c'est un rôle qui est peut-être difficile pour nous, mais je pense qu'on l'a un peu négligé, un peu refusé, parce qu'on n'était pas dans cette philosophie, et il faudrait qu'on reprenne un peu plus la parole sur des choses comme ça, c'est clair.
Donc, on parlait du temps, hein, c'est aussi une donnée, c'est-à-dire qu'il y a le temps nécessaire pour trouver des solutions qui sont incontournables, d'après ceux qui pensent que la planète serait condamnée sinon. 2 degrés de réchauffement ou 3 degrés, c'est évidemment un gros problème que beaucoup de gens ont voulu ignorer à un moment donné, mais qui leur revient maintenant à la figure, il faut quand même dire les choses. Le temps, c'est aussi une nécessité pour les chercheurs d'avoir une perspective de faire des travaux à long terme, d'échelonner aussi leurs recherches. Et on se retrouve finalement maintenant dans une urgence qui est due aussi à des dérives politiques qui n'ont pas amener les bonnes décisions au bon moment. Là, on est dans une urgence. C'est très complexe.
Oui, c'est très complexe, mais là aussi, c'est vrai que l'échelle de temps qu'on a à l'université n'est pas la même que l'échelle de temps dans l'industrie. Donc nous, pour parler concrètement du projet Panda, ça fait 20 ans qu'on travaille sur cette problématique au sein du L2EP. Et qu'on a développé des outils théoriques pour pouvoir réaliser une analyse et des simulations de ces systèmes-là. On a travaillé pendant 10 ans sur des objets très théoriques, c'est-à-dire avec des bourses ministérielles, sans contact avec l'industrie, qui ont permis de revenir en arrière sur certains outils, d'améliorer ces outils, etc. Depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de contacts industriels qui utilisent ces outils-là pour améliorer leur système. Et puis, dans ce projet européen, un des outils qu'on a développé va être au cœur du développement. Ça veut dire que la recherche, elle doit aussi passer par ces périodes-là de maturation, de réflexion, sans pression. Donc c'est important de garder des financements en amont, plus théorique, pour pouvoir justement un jour arriver à avoir ces réponses rapides. Donc ce qu'on propose dans le projet, c'est à l'aide de ces outils qui ont peut-être mis une vingtaine d'années à être développés, d'essayer d'aller beaucoup plus vite maintenant sur le terrain. Or, c'est bien, c'est facile, mais je pense qu'il faut aussi qu'on garde toujours en tête cette idée d'avoir une recherche publique qui doit prendre son temps, se tromper, et arriver à proposer des solutions peut-être à plus long terme pour aller résoudre un certain nombre de problèmes. Je dis ça parce que des fois, on oublie un petit peu cette démarche et on veut avoir des résultats très rapidement à court terme. Donc sur le projet européen, on va y travailler, mais c'est aussi parce qu'il y a eu toute cette maturation et ces supports financiers et humains de l'université, de l'État, pour pouvoir arriver à des résultats comme ça. Donc, je pense que dans les laboratoires, il y a quand même pas mal d'idées qui sont peut-être pas prêtes à être industrialisées aujourd'hui, qui peuvent répondre à un certain nombre de problématiques actuelles. Donc maintenant, il faut arriver à combiner ça et à mettre peut-être les moyens nécessaires pour faire ce pas.
Il y a quelques années, on parlait beaucoup des problèmes liés à la couche d'ozone et des trous dans la couche d'ozone. Il semble qu'aujourd'hui le problème soit résolu parce qu'il y a eu des décisions d'interdire certains aérosols qui amenaient à cette situation au niveau du monde entier. Donc une entente économique autour de problèmes écologiques. C'était peut-être plus facile que de régler les problèmes de véhicules que tout le monde utilise, peser sur l'ensemble à la fois des industriels et des consommateurs. C'est plus compliqué que d'arrêter de fabriquer des bombes à aérosol, c'est sûr.
Oui et non, je pense qu'il y a, aussi des volontés politiques qu'il faut arriver à avoir. Alors c'est sûr que le contexte actuel est assez difficile pour faire passer des priorités environnementales, même si ce n'est pas déconnecté des contraintes sociales. Hein. Les deux sont très importants. Mais quand on voit certains exemples, par exemple la Norvège, qui depuis 20 ans a mis des incitations très progressivement pour pouvoir... accroître le nombre de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, ils sont le premier pays européen, ils ont 10% de véhicules électriques. Ils ont résolu un certain nombre de problèmes qui se sont posés petit à petit, de charge, en mettant des bornes de recharge dans les rues, etc. etc. La conclusion, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ont des problèmes d'approvisionnement de véhicules électriques parce que la demande est plus forte que l'offre et ils font venir des véhicules électriques d'un peu toute l'Europe et il y a un marché de véhicules électriques d'occasion qui se développe et qui n'arrive pas à suivre la demande. Donc il y a eu des incitations et finalement petit à petit, bon, ça a été très progressif quand on regarde un peu l'analyse, nos collègues du TVES ont fait cette analyse-là, le laboratoire de ville et environnement et société de l'université. Et c'était assez intéressant de voir que ça a été très progressif et que maintenant les espérances ont été dépassées même. Donc là, les actions politiques que doivent se faire. Alors ce qu'il y a aussi sur ce cas-là, donc il y a sans doute d'autres cas à analyser, il y a eu une volonté politique nationale et puis il y a eu aussi des volontés politiques régionales ou des villes, de rajouter des contraintes ou de rajouter des aides pour faire cette transition. Et finalement, ça a quelque chose qui a l'air d'être très intéressant.
Non, il y a les véhicules du parc privé, puis il y a aussi les véhicules du parc public. Je ne sais pas combien ça représente en termes de pourcentage, mais si on prend pourquoi pas même les grandes sociétés nationales ou qui l'ont été, françaises, elles ont des parcs de véhicules. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par des publics contraints sur lesquels on peut peser plutôt que par les particuliers qui en ce moment défilent dans la rue pour réussir à payer leur carburant?
Alors, j'avoue avoir aucune idée du pourcentage que représente le parc automobile, soit public, soit des entreprises privées. Il y a déjà sur les établissements publics des règles de pourcentage de véhicules. Je ne sais plus exactement, mais maintenant dans le changement de véhicule, on a un pourcentage de véhicules électriques à avoir. Donc c'est ce qui est le cas à l'université, ce qui est le cas à la région par exemple, où il y a déjà des véhicules électriques. Donc est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas? Je pense que oui. Et les grandes entreprises sont aussi en train de faire ce changement. Donc j'ai deux ou trois idées en tête là. Se sont fait récemment. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'entreprises, en particulier des centres commerciaux, qui proposent des recharges de véhicules électriques gratuites. Bon, dans la région, il y en a plein. Il y a une mobilisation du secteur industriel privé qui est de plus en plus forte, principalement pour des raisons d'image, mais je pense que ça commence aussi à contribuer à cette idée.
Donc là, on est pour le grand public aussi sur des contraintes de coûts. Est-ce que les coûts, si on produit en masse, vont baisser énormément ou pas?
Alors le problème de coûts, c'est un vrai problème, mais il n'est peut-être pas aussi important que ce qu'on pourrait croire. Donc il est clair qu'une production en masse va pouvoir faire baisser les coûts. Ça, c'est une évidence et ça va jouer. Si je prends le problème de coût d'un véhicule électrique, pour un véhicule neuf, alors est-ce que tout le monde peut acheter un véhicule neuf? Ça, c'est une autre question. Mais pour un véhicule neuf, si on prend le cas de la Renault, donc c'est Kangoo, qui est produite dans la région du Nord. Il y a une version électrique et une version thermique qui sont au même prix. La différence, c'est que sur la version électrique, il y a une location de batterie. Donc en gros, Renault, par rapport à ce segment de véhicule, a décidé d'avoir le même coût à l'achat. Après, il faut faire le calcul du coût de l'allocation de la batterie, plus la recharge, par rapport au coût de remplissage du réservoir. Mais quand on fait une analyse un peu fine, la différence n'est pas si énorme. Uniquement pour les véhicules neufs. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas se payer un véhicule neuf, donc ce qui pose d'autres questions. Mais le coût, forcément, il va baisser, et la production de masse va contribuer à ça.
Alors, pour l'État, il y a des incitations, hein, à acheter des véhicules neufs, et peut-être les voitures électriques aussi en priorité. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grande impulsion à ce niveau-là. Il y a deux solutions aussi. Est-ce qu'on favorise l'aide des acheteurs, hein, des clients, ou est-ce qu'on favorise la vente à prix moindre par l'industrie?
Je ne saurais pas trop vous dire quelles sont les politiques qui seraient à mettre en œuvre. Globalement, je pense que c'est un peu l'exemple de la Norvège. Les meilleures politiques, c'est d'arriver à mixer plusieurs aides en même temps. Mais après, la mise en œuvre de tout ça pose beaucoup de contraintes. C'est difficile de répondre à cette question-là, honnêtement.
Alors après, dans la région, on a beaucoup d'entreprises qui produisent, hein, des véhicules. C'est un des moteurs aussi de l'emploi chez nous. Je pense que ça va encore le rester. Est-ce que le véhicule électrique va permettre de préserver le nombre de personnes qui travailleront, ou est-ce que ça demandera beaucoup moins de personnel?
Normalement, comme on va être obligé de toute façon à terme de changer de mobilité, parce que la pollution, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la disponibilité des ressources fossiles. Donc la transition, on va la faire d'un moment donné ou à un autre. Donc là, il faut la faire plus vite par rapport à la pollution. Donc les véhicules électriques, c'est une autre technologie. Et pour avoir des véhicules performants, il va falloir mettre un peu plus de haute technologie. Donc ça veut dire que les constructeurs et les équipementiers, qui sont très nombreux en région, doivent progressivement aussi s'adapter. Et je pense personnellement que c'est une chance, parce que on a cette culture de la haute technologie, en particulier dans le domaine automobile en Europe et en particulier en France. Les véhicules électriques et hybrides, puisque les hybrides vont être une part importante, vont demander une haute technologie, donc pouvoir garder des emplois en haute technologie en Europe. C'est aussi un peu la volonté de l'Union européenne de pousser sur ces technologies pour des contraintes environnementales, mais aussi pour garder de l'emploi en Europe, parce qu'on a l'expertise pour le faire, et cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies vont devoir être réalisées. Par rapport à l'Asie en particulier, qu'il n'y a pas cette culture, on sait que la qualité, elle est meilleure en Europe, le prix est moins cher en Asie, mais pour avoir des véhicules performants, on va avoir besoin de haute technologie. Donc c'est important, je pense.
Alors, c'est vrai qu'on dit que la France est en difficulté économique, mais peut-être moins que certains pays d'Europe. Est-ce que tous les pays d'Europe peuvent être confrontés en même temps à résoudre ce problème avec les mêmes armes, avec les mêmes moyens? Comment on peut répartir la charge équitablement entre les différents pays de l'Europe?
Donc les pays les plus concernés, c'est les pays où il y a des gros constructeurs automobiles, la France, l'Allemagne, un peu l'Italie, l'Espagne, un peu l'Angleterre aussi. Donc ça, c'est des pays qui se sont mobilisés à des niveaux différents. Donc il y a des très forts programmes sur les véhicules électriques en Allemagne qu'on n'a pas en France, par exemple. Ça, c'est clair. Donc après, il y a tous les équipementiers où dans beaucoup de pays en Europe, on a des équipementiers. Un des projets, un des objectifs de Panda, c'est de pouvoir justement, au travers des prototypes virtuels, c'est-à-dire de la simulation, de pouvoir prévoir assez rapidement de nouveaux véhicules, au lieu de tout construire dès le départ, de faire des modèles de simulation, de tester les modèles de simulation, donc de bien gérer tous ces modèles. Et c'est de pouvoir faire des modèles qu'on mettrait sur un cloud, où chaque acteur, que ça peut être une PME, un industriel, pourrait tester de remplacer tel composant par un autre composant qu'il développerait, pour faciliter un peu l'innovation d'une part, aller très vite dans l'innovation, et d'autre part, pour pouvoir en particulier permettre à des PME, des petites entreprises, de jouer le jeu de cette nouvelle mobilité. Alors pourquoi PME ? Parce qu'elles sont plus innovantes, elles sont plus rapides, elles sont plus dynamiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, les grands constructeurs travaillent vraiment avec des entreprises qui sont beaucoup moins dynamiques, mais qui sont des partenaires privilégiés. Donc une des idées aussi, c'est d'arriver à faire un modèle plus dynamique, avec ce qu'on appelle l'industrie 4.0, pour que chacun puisse jouer le jeu et contribuer. Donc par rapport à l'Europe, je pense qu'on peut imaginer très bien que de nouvelles sociétés se créent dans cette dynamique-là, peut-être pas exactement dans tous les pays, mais pour pouvoir contribuer, et c'est un peu l'objectif de Panda aussi.
Donc, si je vous comprends bien, il pourrait y avoir, en gros, les mêmes unités de production des voitures d'une manière globale, et en local, une finition, enfin, comment on peut terminer les voitures dans chaque pays avec la main-d'œuvre locale et des process locaux pour les amener aussi à s'adapter peut-être à des contextes plus locaux.
Oui, alors dans les demandes de ce type de projet, il y a beaucoup de lignes qui reviennent sur l'économie circulaire. Et il est clair que la production locale, l'utilisation locale, puis le recyclage aussi local, doit être un point important à développer pour tout un tas de raisons. Et il faut trouver des outils pour faciliter cette économie circulaire. Donc dans le partenariat, il y a des grosses entreprises comme Renault, Valeo, etc., qui ont aussi cette volonté, ou qui sent cette nécessité d'évoluer vers cette économie circulaire, on va dire, de pouvoir avoir des entreprises dans différents pays qui utiliseraient une même base de données pour développer des véhicules, tester des véhicules, recycler des véhicules. Donc bon, il y a une réflexion aussi sur ça, et des outils qu'on doit développer doivent inclure aussi cette réflexion. Bon, est-ce qu'on arrivera jusqu'à ce point ? Je ne sais pas, il faut être réaliste, mais c'est clair que la question doit aussi être incluse.
Voilà, eh bien, monsieur Alain Bousquerol, donc, pour conclure, on pourrait dire que l'Université de Lille et d'autres universités qui sont partenaires de Panda, hein, développent donc ce grand projet européen, soutenu par l'Europe aussi, oui. Avec une ambition de régler des problèmes du monde. Et donc, il faut aussi espérer que dans le monde, d'autres correspondances se feront pour que tout cela se soit en phase, hein, si possible.
Oui, je pense qu'il y a une volonté aussi dans ce genre de programme d'arriver à coupler autant des programmes existants que des programmes passés, pour qu'on ne refasse pas les mêmes choses et qu'on aille beaucoup plus vite ensemble.
Bien, merci pour toutes ces explications. Et quelles seront les prochaines étapes de Panda, là ?
Donc, les prochaines étapes, c'est de travailler sur trois véhicules de test, un véhicule électrique de Renault, un véhicule pile à combustible d'un autre projet européen, justement, et un véhicule hybride de Valeo, pour arriver à, sur ces véhicules de référence, commencer à développer ces outils.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Merci.